Actu SF, les podcasts.
Bonjour à tous, merci d'être venus. Je suis Valérie Mangin, d'habitude je suis scénariste de bande dessinée, mais aujourd'hui je suis là comme modératrice donc de la table ronde Corpus Christi, qui va vous parler, qui me donne le plaisir d'accueillir ici Éric Liberge
et Gérard,
Gérard Mordillat, qui sont les auteurs, avec Jérôme Prieur qui est absent aujourd'hui, d'une magnifique série de bandes dessinées en trois tomes, Le Suaire, que vous avez devant vous, et dont vous allez voir des images tout à l'heure, et qui, dont deux tomes sont déjà parus, et dont le troisième devrait sortir au début de l'année prochaine, je crois.
Exact, septembre 2019.
Voilà. C'est ça. Alors, cette table ronde, comme vous le voyez, vous est présentée aussi en langue des signes, et donc ça me donne l'occasion de vous présenter aussi un autre livre d'Éric, qu'il a réalisé en 2008, aussi aux éditions Futuropolis, et qui s'appelle Aux heures impaires, et qui, je crois, met en scène un héros qui parle la langue des signes, justement.
Voilà, le personnage principal est un jeune sourd qui est un peu en crise par rapport à sa famille, la société, enfin, bien révolté, et il rencontre, par l'intermédiaire du musée du Louvre, d'un stage au Louvre, l'art avec un grand A, et ça va produire une énorme transformation dans sa vie. Voilà.
D'accord. Et donc, pour revenir, revenons un peu maintenant au Suaire. Donc, restons sur vous, peut-être Éric, pour vous présenter votre parcours avant le Suaire.
Donc, moi, je suis donc Éric Liberge, je suis auteur de bande dessinée depuis, disons professionnellement, depuis 1998, avec la série Monsieur Mardi Gras Descendre. Et depuis, je ne me suis plus arrêté, c'est-à-dire que j'ai quitté un travail salarié pour un grand saut dans le vide, parce que la vie d'auteur de BD, c'est ça, c'est l'inconnu. Donc depuis 1998, je suis dans ce métier-là et je prie que ça continue, voilà.
Si tu pries, ça va.
On est déjà dans le sujet, en fait. Donc, et vous, Gérard, votre parcours, peut-être c'est important de signaler avant le Suaire.
Je ne vais pas faire ma nécro en avance, donc je suis cinéaste et écrivain. J'ai écrit une vingtaine de livres, des essais, des romans, de la poésie, et j'ai tourné pareil une vingtaine ou une trentaine de films, et notamment par rapport à ce qui nous intéresse, avec Jérôme Prieur, nous avons réalisé en coproduction avec Arte quatre grandes séries, trois sur la littérature chrétienne, Corpus Christi, l'origine du christianisme et l'Apocalypse, et une sur le Coran qui s'appelle Jésus et l'Islam. Donc voilà.
Donc le Suaire, c'est un peu la suite logique de vos précédents travaux, en fait.
Oui, le Suaire, c'est la suite logique, et surtout grâce à Éric, ça nous a permis de faire, par le dessin, un véritable travail historico-critique. Car ce qui est, à mes yeux, la réussite de ces deux albums, c'est justement le détail et la précision documentaire sur le terrain historique. Au-delà du talent d'Éric, mais je ne vais pas faire son éloge ici, mais c'est vraiment ça, c'est très important de voir comment cette histoire s'est constituée, parce qu'elle s'est constituée à partir des images. Et donc, c'était très bien de faire ce travail que nous aurions pu faire par ailleurs sur un plan littéraire, et nous l'avons plus ou moins fait. Mais là, soudain, c'était par l'image, c'était attaquer le travail historique par le dessin. Parce que le Suaire a cette chose qui...
Vous pourriez peut-être nous le définir, d'ailleurs, le Suaire.
Le Suaire, c'est un linge qui aurait... et le conditionnel est juste ironique, contenu le corps de Jésus après sa descente de la croix. Plus précisément, c'est un linge qui a été peint en France à Liray, près de Troyes, au XIVe siècle, qui a été photographié à Turin à la fin du XIXe siècle, et qui, on peut penser qu'au XXIe siècle serait l'objet d'un film, c'est-à-dire s'interroger sur cette image qui a traversé le temps. Mais juste pour faire un point sur le plan historique, parce que j'ai eu une discussion avec un monsieur tout à l'heure, il n'y a aucun doute sur sa fabrication. Les sources historiques sont extrêmement claires, puisqu'on a les lettres des évêques de Troyes, de l'époque où ça a été fait à côté de Troyes, dénonçant cette chose-là, dénonçant cette forgerie, comme il le disait. C'est une forgerie. Alors, ce qui est magnifique, à mes yeux, c'est qu'en réalité, le Sueur est plutôt une œuvre d'art brut. Ce n'est pas l'œuvre d'un grand artiste, puisqu'à cette époque-là, il y avait d'immenses peintres et qui auraient peint quelque chose de tout à fait différent. Là, lorsqu'on regarde la figure qui a été représentée, elle a tant de défauts morphologiques, si je puis dire, et beaucoup d'autres, mais que ce n'est pas l'œuvre d'un grand artiste, c'est de l'art brut, et c'est quelque chose qui, dès l'entrée, dès le moment de sa fabrication, a été conçu pour gagner de l'argent, parce que les seigneurs de Liret avaient besoin d'argent. Donc qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils ont fait peindre ce Sueur, et puis c'est la prémonition du cinéma. Les gens rentraient dans l'église, après avoir payé, bien sûr, leur obol. Une fois que c'était complet, on hissait le Sueur à la lumière des chandelles. Peut-être chantait-on un cantique, et puis une fois que tout le monde avait bien vu et prié, etc., on faisait sortir les gens par la chambre de la porte du fond, et on faisait rentrer la deuxième séance par là. Alors, bien entendu, ça gênait l'église, mais il se trouvait que le sieur de Charnay, qui était le propriétaire de l'abbaye de Liret, était un neveu du pape, qui était un pape d'Avignon à ce moment-là, et les évêques étant scandalisés par cette ostension et par le commerce qui en était fait, le pape était un peu gêné, et qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il a demandé que soit publié devant l'église un texte expliquant en latin c'était une véritable image, vero icona, qui a donné le pronom Véronique, bien sûr. Et la différence étant très importante entre une véritable image et une image véritable. Mais en latin, au XIVe siècle, les paysans de Liret, je ne suis pas certain qu'ils aient fait le distinguo.
Et depuis, l'Église a plus ou moins validé l'idée que le Sueur était le Saint Sueur, justement.
Non, l'Église ne l'a jamais validé. Non, non, non. Ils ont toujours botté en touche, si je puis dire. Dès les photos de Segundo Pia au fin du XIXe, Léon XIII, le pape, dit que, bien entendu, ça ne peut pas être en aucun cas le Sueur de Jésus. Alors, ce qui est très intéressant et ce qui nous a intéressés, c'est que le débat, en réalité, se fait à front renversé. C'est-à-dire que ceux qui veulent à toute force que ce linge soit celui qui a contenu le corps de Jésus, ce sont des laïcs, chirurgiens, physiciens, chimistes, etc. Et ceux qui, dès la publication notamment des photos de Segundo Pia, expliquent que non, 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 ça ne peut pas être le Sueur de Jésus, ce sont des prêtres, c'est notamment le chanoine Ulysse Chevalier, qui était le responsable de l'onomastique à l'Institut catholique de Paris, qui publie tout de suite un texte de 200 pages montrant, alors, de façon extrêmement claire et puissante, pourquoi ce ne peut pas être le Sueur de Jésus. Alors, je peux vous le faire rapidement, d'abord parce que le corps qui est représenté est supplicié tel que le supplice de la crucifixion est décrit dans l'évangile selon Jean. Or, dans l'évangile de Jean, il n'y a pas de Sueur, mais des bandelettes. Donc, Ulysse Chevalier fait la recherche philologique dans toutes les langues du pourtour pour voir comment se dit bandelette et Sueur. et ayant fait l'araméen, l'hébreu, le nabatéen, le syriaque, etc., il atteste que bandelette se dit toujours bandelette et que ça désigne bien des bandelettes. Et d'ailleurs, ajoute-t-il sans doute avec une pointe d'ironie, que si le saint évangéliste avait remarqué quelque expression que ce soit, il n'aurait pas manqué de le signaler. Donc déjà, il y a ça. Et puis ensuite, c'est une objection textuelle extrêmement forte. Ensuite, bien entendu, il y a une autre objection, c'est que le corps qui est représenté sur le linge a les mains croisées sur le pubis. Aucun juif ne se fait enterrer avec les mains croisées sur le pubis. C'est une impureté majeure, de la même façon que des linges souillés sont une impureté majeure. Donc ça prouve bien que celui qui a fait ça n'était pas juif, il était un chrétien qui imaginait qu'il était enterré comme peuvent être enterrés les chrétiens.
Oui, vous l'expliquez très bien dans la bande dessinée d'ailleurs. Mais c'est assez amusant parce que quand j'ai voulu préparer cette table ronde, je suis allée voir des critiques de votre album et ceux qui avaient le plus de réserves, beaucoup ne validaient pas totalement l'idée que c'était un faux, prenaient beaucoup de précautions oratoires pour le dire. Et en fait, ceux qui avaient l'air de plus penser que c'était un faux, c'était le journal La Croix en fait. Qui le disait franchement, mais c'est à peu près les seuls, c'est assez amusant.
Confirme,
oui.
Ça confirme.
Est-ce que vous-même aviez un intérêt pour les sujets religieux avant de le faire, le suaire, Eric ?
Religieux, c'est peut-être un mot réducteur, mais en tout cas, tout ce qui touche à l'invisible et une certaine spiritualité, oui, c'est mon terreau, c'est ma cour de récré, on va dire. Enfin, une cour de récré plutôt sérieuse. Maintenant, le suaire touche là un sujet, on va dire, contemporain, inscrit dans notre histoire humaine, que je n'avais jamais abordé auparavant. Et la façon dont le présentent Gérard et Jérôme, c'est cette déclinaison sur cette espèce d'écho de trois incarnations, en fait, sur l'échelle du temps, comme ça, permet justement de développer, une espèce de scénographie que je n'avais jamais abordée auparavant, ni dans le Moyen-Âge, ni dans le 19e, et encore moins dans l'époque actuelle.
Comment est né concrètement votre projet alors ? Parce que vous disiez, vous avez fait beaucoup de documentaires et écrit beaucoup de livres avant, c'est donc votre première bande dessinée. Comment en êtes-vous arrivé là, si j'ose dire ?
Mais, j'ai envie de dire naturellement, parce que au départ de toute cette histoire, il y avait un projet de film, de fiction, il y a plus de 30 ans, que nous avions développé avec Hachette Première, qui était la maison de production des éditions Hachette, et puis la chose ne s'est pas faite. Ils se sont effrayés et du sujet et de son coût, mais Jérôme et moi n'avons jamais renoncé, puis nous avons fait entre-temps tous ces travaux-là, et puis soudain j'ai repensé que j'avais déjà vécu au fond cette histoire avec Jean Vautrin. Quand Jean Vautrin a publié son livre Le Cri du Peuple, son roman Le Cri du Peuple, nous sommes allés là aussi directement chez Hachette, qui étaient des amis à nous. René Klettmann, qui dirigeait ça, était un ami à nous, en disant à René, eh bien voilà, enfin nous allons pouvoir faire un film sur la Commune. Et nous sommes quittés bons amis, et 8 jours plus tard, René Klettmann nous a expliqué que la direction générale d'Hachette s'opposait à ce qu'on fasse un film sur la Commune. Et c'est celle-là que Jean a eu l'idée d'aller voir Tardy pour faire cette merveilleuse bande dessinée qu'ils ont fait ensemble. Eh bien, c'est la même démarche que nous avons eue, Jérôme et moi, en allant voir Eric.
Vous êtes allé voir Eric ou vous êtes allé voir Futuropolis, en fait ? C'est un projet que vous avez monté
non. On est allé voir Futuropolis, Claude Gendreau, et c'est Claude Gendreau qui a été notre marieur, si j'ose dire.
Voilà.
Et donc, vous avez répondu positivement, immédiatement ?
Moi, j'ai tout de suite, dès que j'ai eu le script et même déjà le titre, il m'a dit « Un projet sur le suaire de Turin ». Et immédiatement, une lampe s'est allumée au fond de moi. Mais ça a été confirmé, évidemment, avec la lecture du projet. Et surtout, ce qui m'intéressait, c'était ce développement en trois temps, sur trois étapes, commençant par le Moyen-Âge. C'était formidable, quoi.
Voilà. Oui, donc vous avez choisi, effectivement, de faire une trilogie. Alors, je ne sais pas si c'est un rapport avec la Trinité ou pas,
c'est simplement là, c'est la chronologie historique. Il n'y a pas d'autre. On peut, alors bien sûr, vous pourrez peut-être nous faire une petite plaquette sur la lecture symbolique et métaphorique de cette histoire. Mais non, c'est simplement la chronologie historique. Le moment où ça a été peint, le moment où ça a été photographié, le moment où l'on pourrait réaliser un film.
Est-ce qu'un tome 4 pourrait être sur la bande dessinée dans le futur ?
Peut-être, oui, cinéma. Pourquoi pas, oui, pourquoi pas, d'un seul coup, que la bande dessinée fasse naître quelque chose de nouveau. Voilà, je vois les images qui passent. Par exemple, on est très fiers de ça, où là, vous voyez une représentation très vraisemblable de ce qu'était le supplice de la crucifixion. Et parce que ce supplice qui a été des millions de fois représenté par des peintres, évidemment, posait de très graves problèmes à l'Église, parce que pendant tout un temps, le crucifié, c'était le Christ Pantocrator, en majesté, toute la période byzantine, etc. Et là encore, c'est à partir du moment où il y a eu la grande peste que l'Église a autorisé à représenter la souffrance, l'agonie et même la mort de Jésus sur la croix. Et là, d'un seul coup, ça posait un sérieux problème, parce que historiquement, on savait que les crucifiés étaient nus. Donc, était-ce possible ou pas possible de représenter le Seigneur, entre guillemets, nu, et donc de montrer ses parties génitales? Et le vrai problème était là, c'est que dans l'évangile de Luc, il est circoncis au huitième jour. Et donc, fallait-il le montrer circoncis? Et s'il fallait le montrer circoncis, est-ce que cela signifiait qu'il fallait d'abord être juif pour être chrétien? Vous allez voir comment on arrive au suaire. Eh bien, à ce moment-là, l'Église a donné ordre aux peintres de peindre, un pagne au crucifié. Et ayant peint ce pagne, eh bien, ça a fait ressortir la plus vieille hérésie chrétienne, qui est de supposer que Jésus n'était pas autre chose qu'un être humain. Il était un esprit, il était quelque chose, une apparition, etc. Donc, il a bien fallu là aussi s'y remettre, et on a à nouveau donné ordre au peintre de faire exister sous le pagne les genitalia, comme on disait en italien, ce qui a donné des délires extraordinaires sur la peinture. Et c'est comme ça que petit à petit on en arrive à la construction d'un personnage qui n'a au fond rien à voir avec ce qu'était le personnage historique de Jésus.
Oui, vous êtes extrêmement bien documenté. Est-ce que vous, Eric, aussi, vous avez beaucoup utilisé les documents historiques pour votre travail ?
Oui, il y a forcément des recherches iconographiques sur... En tout cas, la plus compliquée était peut-être le Moyen-Âge. Mais maintenant, ce que j'aime bien faire dans les travaux, justement, qui demandent une grosse reconstitution historique, c'est de créer, en tout cas, une vision d'ensemble beaucoup plus atmosphérique que réaliste. C'est-à-dire proche du moindre bouton ou de la moindre côte de maille, ce qui ne m'intéresse pas du tout, mais de rendre une atmosphère. Et ça a été peut-être le défi, ouais, le plus important sur le premier album.
Oui, parce que je vois qu'à côté, à côté de ces recherches historiques, de ce travail sur le Christ, il y a aussi un énorme travail formel sur l'album. Je parlais des trois albums, mais on voit qu'ils tournent tous les trois autour des trois mêmes personnages, qu'énormément de scènes se répondent, qu'il y a un grand travail formel sur l'utilisation des dialogues et des pages muettes. Vous-même, vous avez beaucoup travaillé votre dessin. Vous avez fait le choix du réalisme.
Ah oui, parce que c'est le style qui sort naturellement de moi. Moi, je ne suis pas du tout un dessinateur de franco-belge grené, donc je vais naturellement vers le réalisme. Et c'est pour ça que je pense que l'écho avec Gérard, son travail, enfin, et même celui de Jérôme, c'est très bien passé, parce que Gérard est aussi dans une reproduction, un rendu du réalisme, que ce soit dans les intentions ou même, les mises en scène. Son univers est réaliste, donc ça correspondait forcément au mien aussi.
Pourtant, vous utilisez un monochrome.
Oui, mais le noir et blanc, c'est comme en photographie. On a soudain une image qui prend à la gorge, comme ça, quand on est dans le noir et blanc. Et, alors évidemment, j'aime bien aussi le travail de couleur, mais là, dans le suaire, ce que je redis à chaque fois, mais sur le premier album, on avait la neige, on avait des corbeaux, on avait la peste noire, forcément. On avait des nonnes, noir et blanc, quoi, évidemment.
et vous avez gardé le même monochrome pour les pour le garder pour les deux suivants.
Oui, alors l'idée était peut-être de changer peut-être un paramètre pour donner une identité graphique différente à chaque album, mais finalement non, on est resté au noir et blanc. Et ce que confirme ce que j'entends en dédicace à chaque fois, c'est que les gens sont contents de trouver du noir et blanc, une narration comme ça qui est un peu dénuée jusqu'à l'os, j'aimerais dire, mais voilà, c'est ce qui me convient bien aussi.
Je crois qu'il y a uniquement les taches de sang sur la couverture du premier tome qui sont en couleur. C'est vrai qu'après, il y a un grand travail d'ambiance sur la lumière, notamment.
Ah oui, oui.
Et est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre technique de la vie ?
Alors, c'est de l'encre de Chine, bien sûr. Moi, j'utilise une encre qui est l'encre de la calligraphie japonaise, c'est-à-dire en bâton solide. Donc, je fabrique mon encre en râpant 1 à 2 minutes sur ma pierre à eau, ma pierre à encre, en fait. Et c'est ainsi que je peux retrouver les nuances que je pose, en tout cas pour les lavis, pour les niveaux de gris. Mais l'ancrage au trait noir se fait aussi avec cette encre-là. C'est le premier tour de pierre se fait avec un noir 100%. Oui.
On parlait tout à l'heure de la crucifixion du Christ. Donc, et puis en plus, le thème des utopiales cette année, c'est le corps. Donc, dans vos albums, il y a effectivement un gros travail de représentation des corps. Donc le Christ dans le tome 1, qui fait un écho à la scène qui débute le tome 2, où l'héroïne fait l'amour pour la première fois avec celui qui ne sera pas son fiancé. Quel rapport vous avez avec cette représentation des corps, avec la chair finalement? Parce que vous avez débuté sur Mardi Gras des cendres, qui était une histoire de squelette. Et là, vous passez à des choses beaucoup plus charnelles.
Ben, c'est normal. On ne peut pas dessiner des côtes et des vertèbres toute sa vie. Non, plus sérieusement, ce sont deux pôles. Alors, c'est vrai que c'est Charybde et Scylla, ce sont deux extrêmes, mais c'est comme ça que j'arrive à avancer. C'est d'un pied sur l'autre. Et la chair, oui, elle est forcément présente dans le suaire, mais... C'est le monde.
D'ailleurs, vous avez beaucoup plus représenté le corps nu du Christ que le suaire. Je crois qu'il apparaît deux fois, une fois dans chaque album. Pourquoi vous n'avez pas plus représenté le suaire finalement? Est-ce que c'est un choix?
Disons qu'il est omniprésent. Il n'y a pas besoin d'être redondant dessus. Le suaire est prétexte à cette. Disons que l'histoire entre les trois personnages est prétexte à l'histoire du suaire. Mais il se réalise, il se concrétise dans le premier album. Dans le deuxième, il est photographié. Il n'y a presque pas besoin d'en rajouter. Alors c'est vrai que l'idée de Gérard et Jérôme est d'expliquer en fait le suaire, sa fabrication, ensuite tout ce qu'il transporte avec lui, tous les doutes ou tout l'imaginaire. Donc tout ça parle de lui-même. Donc il n'y a pas besoin, à mon sens, d'être redondant sur l'image. Et c'est même très bien. C'est peut-être le grand absent. Non, c'est le grand présent. Il est là sans arrêt.
Parce qu'il se réinvente de plusieurs manières à l'intérieur de l'histoire. Soit parce qu'on tâche un tissu, soit parce qu'au contraire, on en imprime un avec de la suie, soit parce que donc, c'était de le faire exister sans revenir sans arrêt à cette image, quoi. Mais quand vous parliez du corps, par exemple, il y a une chose, moi, qui m'a toujours amusé, c'est que ceux qui sont très partisans de ce suaire comme étant le suaire de Jésus, et non pas du Christ, il y a une chose qu'ils ne veulent pas entendre, ce sont les mesures anthropométriques. Parce que le corps qui est représenté de dos et de face, déjà, c'est assez intéressant. Il y a entre la figure de face et la figure de dos 14 cm de différence. Donc le personnage aurait eu les talons à peu près au milieu du mollet. Et ensuite, l'envergure de ses bras lui permettrait de se gratter sous les pieds sans plier les genoux. Ça dépasse les 2 mètres. Et il a des doigts de 20 cm. Donc c'est assez intéressant. Et puis surtout, il y a un trou de plus de 10 cm entre la figure de dos et la figure de face. Le trou s'explique très bien, c'est simplement, on mettait le suaire sur une barre, et donc ça correspond exactement à la place où l'on mettait la barre. Donc, mais voilà, donc le corps, l'enjeu du corps, il est présent partout, j'ai envie de dire.
Oui, le corps souffrant notamment, parce que là, aussi en reparlant de Jésus sur la croix, on peut passer à ces flagellants qui se torturent eux-mêmes. Et même, je pensais à cette scène extrêmement violente, moi, qui m'a choquée dans le tome 2, où effectivement on crucifie un malheureux, pour toujours dans l'idée de prouver que le suaire est bien authentique. Je veux dire, comment vous est venue cette idée, mais enfin, est-ce que vraiment on pensait que les gens qui n'avaient plus leur tête ne souffraient pas quand on les...
Oh bah, ça a été un grand classique. Ça a duré jusqu'à, je dirais, au moins en Occident, au moins jusque dans les années 50-60. Oui. C'est-à-dire, on pensait que les démons ne souffraient pas comme les enfants. Les enfants ne souffraient pas. Notamment Dolto s'était insurgé contre cette idée. C'est-à-dire que, bien sûr, il y avait, c'est évident, une souffrance des enfants, mais pendant longtemps, on a pensé que non, comme ils étaient petits, ils ne souffraient pas. Et comme les malades mentaux déliraient, eh bien, on pensait qu'ils ne souffraient pas non plus. Non, c'est... Et l'idée de crucifier, au moment de la publication des photos de Segundo Pia, juste après, il y a un chirurgien en France qui s'appelait le docteur Barbet, qui a crucifié à tour de bras des cadavres. Et notamment des cadavres de vieilles femmes, ce qui donne toujours des images assez étonnantes. Il voulait prouver que c'était bien comme ça que ça se passait. Et puis, ce qui est représenté dans le tome 2, quand on fait une tentative de crucifixion sur un malade mental, en fait, cette chose-là, cette image-là, existe. C'est une chose qui a été faite aux États-Unis, sauf qu'on n'a pas crucifié la personne, mais qu'on l'a là aussi laissé sur la croix, avec un tas d'électrodes partout pour vérifier ce que ça lui faisait. Et quand Scorsese a tourné son film, qui est aussi rigolo que La vie de Brian, sur les derniers moments du Christ, je ne sais plus comment ça s'appelle, La dernière tentation du Christ, Daniel Defoe, qui jouait le rôle de Jésus, a voulu se faire crucifier pour voir ce que c'était. Et il a fallu qu'on le dépende assez rapidement, parce qu'il s'est rendu compte qu'il était en train de mourir, tout simplement. Parce que ce qu'on ne se rend pas compte, c'est que la crucifixion, c'est une pendaison. En hébreu, ça se dit pendu au bois. Et donc, on meurt étouffé, comme si on n'est pas étranglé, mais on est étouffé, tout simplement. Et c'est pour ça que les pieds étaient cloués sur le côté, et non pas, comme dans la représentation chrétienne, de face. Parce que, selon la façon dont on clouait, plus ou moins haut, le supplice durait plus ou moins longtemps. Plus on vous clouait haut, plus vous mouriez lentement. Plus on vous clouait bas, plus vous mouriez vite. Et les nazis, qui étaient quand même de tradition chrétienne, ont fait mourir des juifs comme ça. On en a un témoignage direct par Edmond Michelet, qui était en camp, qui était un des ministres de Gaulle, qui a vu ce type de supplice où on pendait des juifs par les bras. Et tant qu'ils pouvaient faire des tractions, ils ne mouraient pas. Et quand ils ne pouvaient plus faire de traction, ils mouraient étouffés. Quand ça n'allait pas assez vite, eh bien, on leur attachait des poids aux pieds, de façon à ce qu'ils puissent mourir étouffés. Donc, vous savez, quand les Romains disaient que la crucifixion était le pire des supplices, ils savaient de quoi ils parlaient.
C'est un supplice qui est très à l'image des époques que vous dépeignez dans vos deux premiers tomes. Alors, je ne connais pas le tome 3, donc je ne sais pas ce que vous avez en tête. Mais en tout cas, pour Liray ou pour Turin, on est dans des époques extrêmement difficiles. Liray, donc la fin du Moyen-Âge avec la guerre de 100 ans, la grande peste qui vient d'arriver, et donc ces mouvements religieux comme les flagellants qui sont quand même extrêmement violents. Et puis Turin, où on a, je crois que ça se passe en mai 1898, c'est un mois où il y a beaucoup d'émeutes sociales, je crois, à Turin, qui vont déboucher sur une centaine de morts. Enfin, c'est une époque extrêmement violente. Est-ce que c'est important pour vous de placer vos histoires à des époques comme ça de grands troubles et de grandes révoltes ?
Nous sommes là, curieusement, tout simplement, fidèles à l'histoire, et que le contexte historique n'est pas anodin. Il est clair que... à la fois l'apparition du suaire, son utilisation ensuite par la Maison de Savoie et encore aujourd'hui, notamment par toutes les organisations d'extrême droite, correspond aussi à un contexte historique précis. Et c'est évident qu'il est très important de faire sentir au lecteur dans quel contexte bien ces images apparaissent et quelle est leur utilisation.
On a un peu l'impression que vos personnages se débattent au milieu de tout ça. Et pourquoi avoir gardé, je me suis demandé pourquoi avoir gardé les mêmes personnages en fait d'un tome à l'autre, au-delà du fait qu'ils tournent tous autour du suaire, évidemment.
mais parce que ça permettait justement de les faire exister dans le temps. Lucie, la Française, qui est nonne au XIVe siècle, est donc vierge. Elle perd sa virginité au XIXe siècle et elle devient la cinéaste enceinte au XXIe siècle. Son cousin, qui est l'évêque de Troyes au XIVe siècle, devient son amant et député socialiste au XIXe et devient l'acteur qui joue le rôle de Jésus dans son film. Celui qui est le prieur du Lazaret dans lequel la nonne est employée devient son père en Italie et devient le producteur du film dans la Troisième Époque. Et donc on traverse le temps à travers cela. Et c'était important sur un plan, à ce moment-là, je dirais romanesque, de faire exister cette histoire entre les trois personnages qui à la fois est une histoire au fond de séduction et de combat pour l'amour de cette jeune femme, mais en même temps cet amour et cette séduction ne peuvent passer que par la possession du sphère. Donc c'était pendant la dimension romanesque de l'histoire que c'était important.
Est-ce que vous avez déjà des retours sur vos albums ? Parce que je sais que certains de vos documentaires ont provoqué, je sais pas, malheureusement ou heureusement, des polémiques. Est-ce que pour le sphère, ça s'est mieux passé ?
On n'a pas été menacés. Hein. Non, non, il n'y a rien eu pour l'instant.
Non,
non, non le retour est, des lecteurs est très encourageant. Voilà, ça ne fait que nous encourager à continuer, bien sûr. Mais pas de menaces ni de quoi que ce soit.
Non, mais vous l'avez signalé. Par exemple, La Croix, évidemment, est au courant de la question historique et n'en fait pas ça. Et ceux qui ont évoqué ou qui ont émis des doutes et des réserves, bien, ça nous fait toujours doucement sourire parce qu'on se dit qu'il y a un tel besoin de croire qu'on peut finalement faire croire un peu n'importe quoi.
Et j'ai vu des choses assez hallucinantes. Enfin, un savant de Montpellier qui prétend qu'on peut, enfin, que c'est la résurrection du Christ qui a provoqué l'apparition de l'image du Saint-Suaire en expliquant que la détection carbone 14 n'est pas opérationnelle parce que la résurrection du Christ aurait la puissance d'une bombe atomique et donc perturberait le carbone 14. Enfin, des choses assez étonnantes, oui.
Non, mais c'est ce qui est d'autant plus étonnant, c'est que là aussi, finalement, on s'en réfère au texte, une des particularités de la tradition évangélique canonique, c'est que la résurrection n'existe pas. Il n'y a pas de résurrection dans les évangiles. Ça n'existe pas. Ça a été mis en scène plus tard dans les apocryphes, mais dans les canoniques, ils se sont bien gardés de ça.
Bon, ben nous allons peut-être passer aux questions dans la salle. Alors, si vous voulez, si vous en avez, on va vous passer le micro.
Bonjour, bonsoir.
Bonsoir.
Le sphère, c'est une relique particulière dans un monde où il y avait beaucoup de reliques, tout un trafic. Et j'ai même entendu, je crois avoir lu, qu'il y avait plusieurs sphères. Il n'y a pas qu'un sphère unique. Et ce qui m'étonne un petit peu, c'est qu'apparemment, au point de vue historique, ça s'est passé à l'époque où déjà, peut-être, le goût et les trafics de reliques étaient déjà un peu sur le passé. Il me semble que le pic des reliques était plutôt dans le temps. Et comment expliquez-vous à la fois cette histoire, ce pic dans le goût pour les reliques qui subitement après a décru, et à part le sphère qui est encore de nos jours complètement, comme vous dites, par certains groupes crus, maintenant les autres reliques, on n'en parle presque plus.
Non, je crois que ce qui a été très déterminant pour refaire partir ça, c'est lié entièrement à la photographie. Parce que il faut bien voir que lorsque Segundo Pia met sa plaque dans le bain de révélateur et qu'il voit apparaître un visage, il a une révélation, c'est comme s'il voyait soudain quelque chose. Et donc je crois que ça a beaucoup frappé les esprits de voir une chose qui se révélait. Et c'est vrai que ça a relancé toute cette histoire, alors que, bien entendu, le grand trafic des reliques, c'est le 14e et un peu le 15e siècle. Quoi. C'est jusqu'au moment, à partir du moment, et notamment, ça a quand même beaucoup cessé, quand à la fois Luther, puis Calvin se sont élevés contre ça. Mais chacun sait que toutes ces reliques sont des forgeries chrétiennes. Mais au-delà de ça, j'ai envie de dire que la plus étonnante de toutes, c'est quand même le Saint-Sépulcre à Jérusalem, le Golgotha, etc. Parce que le Golgotha a été découvert, entre guillemets, par la mère de l'empereur Constantin, mais comme personne ne savait où ça a pu se passer, donc il cherchait. Et puis à un moment, l'évêque Macaire qui l'accompagnait est tombé en extase et a dit « c'est là ». Et tout le monde a dit « c'est là ». À Jérusalem, on peut visiter un Golgotha concurrent qui s'appelle le calvaire Gordon, qui, du point de vue d'ailleurs, disons, de la géographie, c'est plutôt mieux choisi quoi, de faire ça. Donc on est toujours dans cette relation avec quelque chose qui serait de l'ordre de la révélation. Et ça continuera. Aujourd'hui, ce qu'on voit réapparaître, c'est Elvis Presley. Bientôt, on verra réapparaître Johnny Hallyday. Mais...
Vous croyez qu'on aura des reliques de Johnny Hallyday ?
Il y en a déjà.
Une autre question ? Je vais reprendre la parole pour un temps. Alors, vous dites évidemment d'emblée que le suaire est une fausse relique. Vous placez d'un point de vue réaliste, et pourtant certaines scènes du suaire sont assez une ambiance assez fantastique en fait. On voyait il y a deux secondes passer l'image des médecins médiévaux avec leurs masques incroyables en forme de corbeau. Évidemment, ce sont des choses qui existent réellement, mais on verrait presque un animal fantastique. On a des scènes avec un cerf aussi, ou des scènes où l'héroïne se rencontre à travers les siècles. Donc il y a quand même des aspects fantastiques dans votre histoire. Est-ce que ça ne vient pas perturber un peu l'image vraiment réaliste que vous vouliez donner du suaire, ou est-ce que ça la complète au contraire ?
Moi, je pense que c'est tout l'intérêt justement de la chose, c'est de placer la vie intérieure dans la vie extérieure. La vie intérieure, c'est le rêve, c'est l'inconscient, et tout se manifeste avec des images miroirs dans la vie. Donc je pense que l'incursion, et c'est ce que fait très bien le cinéma asiatique d'ailleurs, d'envoyer comme ça des projections mentales sur le réel, à mon sens, pour moi, ma lecture et mon mode d'expression, ça ne perturbe absolument pas ce que j'ai à dire de réaliste. Au contraire, c'est nécessaire. Voilà.
Alors, en tout cas, oui, ça rajoute beaucoup de charme à l'histoire, ça c'est sûr.
Ça rajoute une dimension qui est quasiment niée dans nos sociétés occidentales, qui est la vie intérieure et la vie onirique. Et comme le deuil, comme la mort, on piétine tout ça, on ne veut pas voir, on met ça sous le tapis. C'est une poussière à masquer, à balayer absolument, parce qu'il n'existe que la chose matérielle. Et c'est vrai que moi, je ne partage pas ce point de vue. Je pense qu'on ne vit pas dans un vase. Il y a l'extérieur du vase aussi. Voilà.
D'ailleurs, on a parfois l'impression que c'est votre héroïne qui a la vie intérieure la plus riche des trois personnages, et qui est le plus à l'écoute, justement, de ce qu'a pu être la religion, j'allais dire, avant l'Église.
Alors, peut-être sur le tome 1. Maintenant, je pense que le tome 2, c'est vrai qu'elle est toujours aussi présente, Lucia, mais le tome 3, à mon sens, disons, on en parlera avec Gérard aussi, mais donnera, en tout cas, un autre éclairage sur les deux autres personnages qui sera tout aussi important.
Est-ce que vous avez des projets, tous les deux, après le tome 3 ?
Alors, nous travaillons ensemble, cette fois-ci tous les deux, mais sans Jérôme, puisque là, c'est sur un roman de Gérard à l'adaptation bande dessinée du roman qui s'appelle Notre part de ténèbres. Alors là, on est vraiment sur un autre sujet, c'est un sujet social, mais qui a un déroulement de film d'aventure. Et là, on est tout à fait dans une autre mécanique, et c'est absolument passionnant aussi. Ce sera aux éditions Les Arènes.
Mais d'ailleurs, là aussi, bien que ce soit sur une chose extrêmement contemporaine et très réaliste, le fantastique ne sera pas absent. Parce que je crois que cette dimension-là est aussi une façon de lire l'histoire. C'est un grand débat que nous avons eu, Jérôme et moi, avec beaucoup d'exégètes avec qui nous avons travaillé. en leur disant « mais il vous manque l'expérience de l'écriture, parce que vous êtes très savant, vous êtes entouré d'étudiants, vous avez d'immenses bibliothèques, mais ceux qui écrivaient les textes, notamment du Nouveau Testament, n'étaient pas dans cette situation-là, c'était des écrivains. » Et pour certains, des romanciers, puisqu'on peut être extrêmement admiratif des trouvailles narratives de certains passages. On se dit, c'est magnifique. Eh bien, cette expérience de l'écriture, c'est une expérience fondamentale, parce que je crois que, justement, la fiction, que ce soit le roman ou que ce soit, là précisément, la bande dessinée, est aussi un outil critique de l'histoire. Et que cette dimension romanesque nous permet peut-être de toucher un certain niveau de l'histoire qui n'est pas forcément accessible par la pure critique historique. Et ça nous permet aussi sans doute d'ouvrir des portes vers des hypothèses qui seraient récusées d'emblée par, au nom de la science, mais de quelle science, par le travail strictement documentaire. Donc je crois qu'il faut faire avancer toutes ces choses en même temps, et que, eh bien, que ce soit par la bande dessinée, par le roman, par la photo, cela nous le permet. C'est-à-dire que l'image est un élément puissant d'interrogation sur le monde où nous sommes.
Et comment travaillez-vous justement tous les deux? Est-ce que vous intervenez au scénario, Eric? Est-ce que vous-même intervenez sur la partie graphique, Gérard? Est-ce que c'est quelle est la nature de votre collaboration là-dessus?
Disons que le tome 1 était écrit comme un film, donc à la façon d'une pièce de théâtre, avec unité de temps, de lieu, etc., les dialogues. Et en fait, nous avons travaillé par séquence de 10 pages. En gros, 7 séquences pour faire 70 pages. Et petit à petit, et effectivement, Gérard et Jérôme m'ont tout à fait mis à l'aise, j'ai proposé des idées, donc des idées peut-être plus oniriques, plus fantastiques, pour amener d'autres aspects de l'histoire. Et là-dessus, c'est vrai que je me sens, en tout cas, de plus en plus libre de leur proposer quelque chose. Et il y a toujours une discussion, bien sûr. Mais en tout cas, voilà, ils ont tous les deux une grande souplesse qui fait que je me sens à l'aise pour rêvasser de manière libre. Voilà.
Mais moi, je dirais même plus précisément, à partir du moment où on fait une bande dessinée, il ne faut pas trahir le genre. Et donc, il faut aller le plus loin possible. Et c'est pour ça qu'on a beaucoup dit à Eric, et ça s'est confirmé dans notre pratique, fait de la bande dessinée, et donc ait des idées sur le scénario, sur les images, sur ces choses-là. Et nous, on a aussi une lecture critique des images qu'ils nous proposent, ce qui permet d'avancer, et puis de se fournir les uns aux autres les éléments à essayer pour faire monter ça, disons, au plus haut degré d'intensité possible. Mais c'est vrai que ça fait partie du plaisir, ces échanges, et qui sont très constants. Enfin, on discute de tout, on discute aussi bien de l'action que des dialogues, que des images, que voilà. Et c'est ça qui est passionnant à faire. Passionnant pour nous, j'espère aussi pour, pour Eric. Mais vous voyez, on voit passer des images. Là, à un moment, on voit une exécution par le feu. À un moment, on brûle dans le tome 1 des flagellants et des juifs qui étaient censés être responsables de la grande peste. Comme il n'y a pas de hasard, j'ai lu dans cette même période un texte de Leonardo Sciascia où il citait un document historique qui était comment se passait le rituel d'une exécution par le feu. Parce que on pense que ce qu'on a vu au cinéma, c'était toujours comme ça, qu'on amène quelqu'un, qu'on l'accroche et puis qu'on met le feu, mais pas du tout. C'était un rituel extrêmement codifié et précis, avec le défilé d'abord des ordres séculiers, puis des ordres religieux, puis des condamnés qui étaient assis sur le fameux banc d'infamie. Tout le monde connaît l'expression, mais on ne sait pas ça. On les asseyait pour qu'on les voie. Enfin, c'était tout un rituel extrêmement précis. Eh bien, en transmettant ce rituel à Eric, ça lui permet, lui, ensuite, de dessiner quelque chose qui, à la fois, est évidemment extrêmement spectaculaire, mais qui, dans le détail, est aussi extrêmement documenté. Ce n'est pas une fantaisie. Ça se passait très précisément comme ça. Ben voilà le type de relation qu'on peut avoir.
Oui, donc vous ne regrettez absolument pas de ne plus travailler seul. Parce que, en fait, Eric est très modeste, il n'a pas dit tout à l'heure, mais il a eu le prix Goscinny en 1999. Le prix Goscinny, c'est le prix du meilleur scénario pour M. Mardi Gras Descendre. Donc vous avez l'habitude de travailler seul, en fait, et vous le faites très bien.
Disons que j'aime avoir avancé sur ces deux pieds-là, justement. C'est mon côté auteur tout seul, avec des projets qui représentent mon univers, et aussi des collaborations extérieures, pardon, j'arrive plus à parler, qui enrichissent mutuellement le travail des participants. Et j'adore tout autant, et surtout avec des partenaires comme eux, travailler dans une collaboration comme ça. Ça m'est arrivé d'avoir des collaborations avec des scénaristes qui étaient malheureuses. Eh bien, c'est pas grave, on passe à autre chose. Mais j'aime bien marcher sur ces deux quilles, oui. Voilà.
J'imagine qu'on vous a laissé toute liberté éditoriale pour faire ce que vous souhaitiez. Vous avez... L'éditeur vous fait globalement confiance, n'a pas essayé de vous mettre des bâtons dans les roues.
Non, mais avec lui aussi, il y a un contact très étroit, Futuropolis, donc Claude Gendreau. Et je pense qu'il a, comme il a senti qu'il y avait une grande émulation sur le tome 1, que la sauce avait vraiment pris, je pense que là, il a vu, et de toute façon, il le sentait, à mon sens, dès le début, qu'il pouvait nous faire confiance et qu'à tout moment, il était possible de rectifier le tir si vraiment on partait dans le décor. Mais ça ne s'est pas fait. Il nous a plutôt poussé à y aller dans le décor. Donc, allons-y.
Alors, je reviens vers le public. Avez-vous des questions à présent ? Non ? Monsieur ?
Merci. Je voudrais savoir, donc par rapport à la série documentaire qui a été faite sur Arte, cette nouvelle bande dessinée, est-ce que vous sentez à cette époque où la religion est quand même détournée de différentes manières par des personnes qui veulent passer des messages, leurs messages à travers un texte qui peut être détourné de plein de manières ou différents textes religieux qui peuvent être détournés de plein de manières, est-ce que vous vous sentez un petit peu, peut-être pas une mission, mais est-ce que c'est important pour vous de tenter de rétablir une sorte de vérité du texte, enfin pas de vérité du texte, mais plutôt d'expliquer un travail peut-être un petit peu éducatif, entre guillemets, pour ne pas détourner, pour éviter que la religion soit trop détournée. Est-ce que c'est important pour vous ?
Je crois que c'est important, c'est-à-dire que la dimension pédagogique est bien tant mieux si elle existe, mais parce que c'est vrai que notre ennemi principal, pas nous, mais nous citoyens, c'est l'ignorance. Et c'est vrai que dans les débats que nous avons eus, Jérôme Prieur et moi, tant devant des publics chrétiens que devant des publics musulmans, on a quand même été... effrayé, je dirais, par l'ignorance très importante des textes de quel côté que l'on se tourne. C'est-à-dire que beaucoup de chrétiens connaissent l'histoire chrétienne à travers ce qu'ils ont appris au catéchisme et à travers ce qu'on appelle la piété populaire, mais qu'en réalité, quand on revient sur les textes, la chose paraît scandaleuse. Et du côté musulman, eh bien là aussi, malheureusement, il y a un très long chemin à faire, tout simplement d'éducation, de lecture critique des textes. Et ce chemin-là, notamment du côté des musulmans, il est particulièrement difficile, et notamment dans ce que nous avons fait sur Jésus et l'islam, où il y avait plus d'un tiers de chercheurs qui étaient, disons, de tradition musulmane. L'immense majorité d'entre eux travaillaient dans des pays occidentaux, aux États-Unis, en Angleterre, en Allemagne, en France. Et il n'y avait que deux historiens tunisiens qui vivaient encore dans un pays musulman. Parce que y a toujours ce fondamentalisme qui voudrait interdire toute interrogation sur les textes. Alors, les chercheurs musulmans avec qui nous en avons travaillé étaient quand même plutôt optimistes en disant que, notamment en Iran et en Turquie, une génération plus jeune d'historiens se mettait à faire le travail, travail qui a été très largement fait dans le domaine chrétien et dans le domaine du judaïsme. Enfin, les travaux critiques sur les textes sont très importants, très accessibles, etc. Mais il y a un fossé immense entre ce que c'est et dit la recherche et ce que croit ou quoi croit croire une grande partie du public. Vous savez, une des choses qui est un souvenir pour moi merveilleux, j'avais été invité au couvent de la Tourette près de Lyon où étaient des dominicains pour un week-end de travail, etc. Et moi, je devais intervenir sur la question du tombeau vide avec Dominique Cerbelot, qui est un dominicain, une des immenses intelligences que nous avons pu rencontrer, et puis avec un autre dominicain. Donc, on était là, puis les déjeuners se faisaient en commun avec les gens qui assistaient à ça. Et là, il y avait une dame avec nous qui avait une croix autour du cou. Et je ne sais pas comment la conversation vient là-dessus, mais je lui dis, mais vous, par exemple, madame, est-ce que vous croyez à la résurrection des corps ? Elle me dit, bien sûr que non. Ah bon ? Alors, avançons. Et est-ce que Jésus était Dieu ? Non, il n'était pas Dieu. Jésus était un prophète, etc. Et on continue comme ça. Et Dominique Cerbelot était rouge cramoisi de rire. Il n'en pouvait plus de rire. Et puis, il se tourne vers la dame et lui dit, mais madame, mais vous n'êtes pas chrétienne. Et là, la dame fait un retour gagnant en lui disant, mais mon père, qui peut croire à des choses pareilles ? Et elle était chrétienne. Donc, je crois qu'il y a cette relation-là, qui est une relation qui a été magnifiquement analysée par Paul Venn pour les Grecs dans son fameux livre « Est-ce que les Grecs croyaient à leur Dieu ?» Y croire, ne pas croire, c'est là toute la complication. Donc il y a un vrai travail d'éducation à faire, et notamment, il y aurait vis-à-vis du domaine scolaire, un vrai travail, alors d'histoire des religions, mais un travail historico-critique. Jérôme Prieur et moi, nous avons mené et perdu des combats quand nos enfants avaient le christianisme à faire à l'école, parce que les livres scolaires, c'est du catéchisme même qu'aucun curé n'oserait faire aujourd'hui. Je veux dire, et donc, il y a un vrai boulot à faire de ce côté-là. Et mon petit-fils, qui va bientôt faire le christianisme à l'école, je lui ai dit, bah, je t'expliquerai et tu auras deux.
Bonjour. Pardon. Bonjour. Alors, je trouve ça très intéressant ce dont vous parliez tout à l'heure sur la représentation du corps du Christ en fait dans l'art moyenâgeux et tout ça. Et du coup, je me demandais, enfin, s'il y a des textes de référence que vous avez étudiés par rapport à cette question, ou enfin, comment vous vous en êtes venu en fait à vouloir. J'arrive pas trop à poser ma question bien. Mais est-ce que voilà, vous avez des textes à proposer, ou enfin, je sais pas, des personnes qui auraient parlé en fait de ces questionnements-là
sur les représentations chrétiennes. Le grand texte est de Joe Steinberg, qui est paru chez Gallimard. Ça s'appelle la sexualité du Christ dans la peinture occidentale. Voilà, c'est dans la collection Infinie que dirigeait, ou que dirige peut-être encore, Philippe Solers. C'est le grand livre, c'est une vie de travaux sur ces questions de représentation. Parce que ce que je disais tout à l'heure, les problèmes de représenter le sexe de Jésus étant posés, eh bien, on a choisi une voie parallèle qui était de montrer l'enfant Jésus, avec toujours cette idée de montrer qu'il avait un sexe, c'était donc un homme, ce n'était pas un esprit, ce n'était pas un démon incorporel, comme le disait une version très archaïque de l'évangile de Luc. Il fallait ça, et ça a amené toutes ces vierges à l'enfant qu'on a fait, où les vierges soit montraient l'enfant, soit l'allaitaient pour montrer qu'il a mangé comme un homme. Et je pense toujours avec amusement à une fameuse toile de Max Ernst où on voit la Vierge donner une fessée à l'enfant Jésus. Et je pense que Max Ernst, en faisant ça, faisait une provocation et qu'en réalité, paradoxalement, il servait directement la cause qu'il pensait moquer. Puisque si la Vierge pouvait donner une fessée à l'enfant Jésus, c'est bien que c'était un homme et non pas un esprit. Donc, lisez Joe Steinberg, c'est absolument génial sur l'analyse de tout ça. Notamment, maintenant, quand vous allez dans les musées, regardez bien quand vous voyez les représentations des rois mages. Dans beaucoup, beaucoup de cas, on voit un des rois mages qui regarde un endroit précis qui désigne que Jésus est un homme. Parce que le docétisme étant renaît de tout de suite, dès qu'on lui a mis un pagne, tout le monde a dit... Il est un esprit, il a fallu combattre ça vigoureusement et ça a été combattu comme ça. Mais de la même façon, vous lirez comment la circoncision qui a été célébrée dans le christianisme jusqu'au Xe ou XIIe siècle était symboliquement associée à l'idée que c'était le premier sang que Jésus avait versé pour l'humanité. Et de même... et là aussi parfaitement théologiquement correct, l'érection, parce qu'il y a beaucoup de Christ en érection, était le symbole de la résurrection. Donc il faut bien lire les images.
On a le temps pour une dernière question, si vous souhaitez. Non ?
Non, eh bien voilà.
Juste faire une petite remarque peut-être. Vous parliez des images et des Christ en érection. J'ai vu que sur une case de l'album, on avait aussi une Vierge montrant son, enfin une Vierge à l'enfant montrant son sein. Et je me disais que ce serait sans doute une image qui serait censurée sur Facebook de nos jours. Et je me suis demandé si on n'avait peut-être pas plus de liberté avec les images religieuses à l'époque que de nos jours.
Oh mais absolument. Enfin, les images étaient lues comme un message de l'Église. Et donc, il n'y avait pas de ce sentiment d'impudeur, puisque montrer le sein de la Vierge, c'était montrer le sein auquel avait été l'enfant Jésus. Et donc, c'était tout à fait respectable. Et de montrer le Christ en érection, comme on le voit chez Cranach, comme on le voit chez plusieurs, et même dans plusieurs scènes, avec l'enfant Jésus est en érection. J'ai plus en tête le nom des peintres qui ont fait ça. Je crois qu'il y a un Bellini, enfin il y en a plusieurs. Mais parce que ce n'était pas considéré comme ni vulgaire, ni insultant, ni rien, c'était lu par tous comme le symbole de la résurrection. Et donc je crois qu'il y avait une liberté vis-à-vis de l'image. Enfin, c'était à la fois très contrôlé et en même temps, il n'y avait pas cette fausse pudeur, j'ai envie de dire, qui empêcherait de voir la nudité. À partir du moment où la nudité est interprété selon les canons de l'Église.
Pas de regrets ? Bon, je crois qu'on peut s'arrêter là. Dans ce cas, je vois qu'il est 18h.
Bravo,
merci beaucoup.
Merci
à vous.